Chapitre 14. Un solliciteur. Le jour suivant, comme la voiture était à la porte et qu'on se disposait à aller au bal, on annonça M. Tyrold et Lionel entra dans le salon. Il avait l'air affairé, quoiqu'il parût aussi gai, aussi sémillant qu'à son ordinaire. Camilla fut un peu alarmée de son arrivée et Mistress Arbery lui demanda s'il voulait les accompagner. « De tout mon cœur, répondit-il, mais je désirerais auparavant causer un moment avec ma sœur. » Alors, disant qu'ils auraient une lettre à écrire, il demanda une plume et de l'encre. Et il se disposait à passer avec elle dans un autre appartement, quand M. Desnel objecta que les chevaux attendaient. « Eh bien, dit Lionel sans se gêner, vous nous les renverrez et nous vous suivrons. » M. Desnel opposa l'inconvénient de trop fatiguer les chevaux, disant qu'il y avait une côte à monter. Mais Lionel, en l'assurant que rien ne leur serait plus salutaire, disserta tellement sur l'avantage qu'il retirerait de cet exercice qu'on l'eût pris pour un maréchal expert. M. Desnel n'eut rien à répondre. On laissa donc le frère et la sœur tête à tête. Camilla eut volontiers renoncé au bal, mais le désir de voir Edgar et l'espèce d'engagement qu'elle avait pris avec lui l'emportaient sur toutes ses craintes. « Ma chère fille, dit Lionel, je suis venu pour vous demander un service. « Vous voyez cette plume et cette encre? Donnez-moi une feuille de papier. » Sa sœur la lui donna. « C'est une bonne enfant, dit-il en lui caressant la joue. « Allons, asseyez-vous et écrivez un petit mot pour moi. « Mettez « Mon cher monsieur. » Camilla écrivit « Mon cher monsieur. » « Un accident imprévu. « Allons, écrivez. « Un accident imprévu me fait un besoin pressant de 200 livres sterling. » Camilla laisse tomber la plume, se lève et dit « Lionel, cela est-il possible ?»« Très possible, ma chère. Vous savez qu'avant votre départ de Clèves, je vous dis que j'avais besoin de 100 autres livres. Ce n'est donc dans le fait que 100 livres de plus. »« Oh, Lionel, Lionel !» dit Camilla en joignant les mains avec un regard plus expressif que tout ce qu'elle aurait pu dire. « Pourquoi n'écrivez-vous pas ? » reprit-il sans avoir l'air de s'apercevoir de son émotion. « Et à qui cette lettre est-elle adressée ?» dit Camilla. « Mais à mon oncle, apparemment. Que signifie cette distraction ? Êtes-vous amoureuse, Camilla ?»« À mon oncle, encore ? Non, Lionel, non. Je me suis solennellement engagée à ne lui plus faire de pareilles demandes. »« Oui, pour moi, ma chère, mais où s'égarent vos pensées ? Ne pouvez-vous pas demander cette somme comme pour vous-même ? Pour moi ? « Oui, certainement, puisque c'est le seul moyen de l'obtenir. »« Impossible. Comment puis-je avoir besoin de 200 livres ?»« Oh, pour un million d'objets, dit Lionel, ne vous faut-il pas des robes, des bonnets, des chapeaux et une foule d'autres ajustements ?»« Rien n'est plus facile que de persuader que vous avez usé tout cela dans un lieu tel que celui-ci. »« Je vais vous donner encore un meilleur expédient. Dites que vous avez été volé. » « Notre oncle le croira sans peine, car il sait que ces sortes d'endroits sont remplis de filous. »« Vous me soulagez maintenant, » dit-elle avec un sourire forcé, « car je suis bien sûre que vous ne parlez pas sérieusement. Vous devez être très convaincue que je ne voudrais pas pour tout le monde tromper ou jouer mon oncle. »« Vous êtes un enfant, » dit Lionel, « vous ne connaissez rien aux usages de la vie, rien du tout. Si vous ne voulez pas néanmoins employer ces moyens, » « Dites que vous avez un motif secret de faire cette demande. Je vous mets bien à votre aise, il comprendra par là qu'il ne doit pas vous faire de questions et que l'argent est la seule chose dont vous ayez besoin. »« C'est parler pour ne rien dire, Lionel. Est-ce qu'on peut demander une pareille somme sans rendre compte de l'emploi qu'on en veut faire ?»« Rendre compte, ma chère, la qualité d'oncle donne-t-elle à un homme le droit d'être impertinent ?» Craindriez-vous que cela ne le refroidisse pour votre mariage? Mais si vous voulez vous marier sur le champ, il ne tiendra qu'à vous. Je connais votre prétendu. Bon, bon, le major Sherwood? Non, il fut un temps où je croyais qu'Edgar Mandelbert songeait à vous. Mais j'imagine qu'il n'y pense plus maintenant, ou je serais bien trompée. Cette observation n'était pas propre à tranquilliser Camilla. Elle fit un soupir. Et Lionel, en devinant la cause, lui dit de ne pas se décourager et d'écrire promptement la lettre. Elle l'assura qu'elle ne pourrait jamais se résoudre à renouveler une demande si déraisonnable. « Je suis donc perdu, dit-il, car je ne puis vivre sans argent. Dites plutôt avec de l'argent, répondit sa sœur, car vous n'en gardez point. Cependant, quelle sera la fin de cette conduite, Lionel ? Comment existerez-vous quand vous aurez complètement épuisé toutes vos ressources ? Vous voulez dire quand je serai ruiné ? Eh bien, comment vivent les autres quand ils sont ruinés ? Je ferai comme eux. Quoique la vérité, je n'ai pas beaucoup réfléchi sur tout cela. Faites-y donc attention, mon cher Lionel, je vous en conjure, faites-y attention. Eh bien, voyons, ma foi, je ne sais pas trop comment je m'y prendrai. Non, en vérité, je ne me sens pas disposé à me brûler la cervelle. Je ne trouverai pas non plus très agréable de passer ma vie dans la prison du banc du roi, car il est horriblement ennuyeux d'habiter toujours le même endroit. Il me serait fâcheux aussi de me dépayser, car j'aime la vieille Angleterre. Mais c'est le diable qu'une bourse vide. Écrivez donc la lettre, ma chère enfant. Voilà votre conclusion, Lionel. À quoi bon s'arrêter sur ces idées fâcheuses ? Si je pensais à ma ruine avant le temps, je ne jouirais pas plus que si j'étais ruinée. Vivons tandis que nous vivons, ma chère fille, et laissons là toutes ces prophéties de malheur. Écrivez, vous dis-je, écrivez ! Camilla refusa de nouveau positivement, alléguant la promesse qu'elle avait faite à son oncle et déclarant qu'elle ne la violerait point. « Vous en parlez à votre aise, » dit Lionel avec un mouvement d'impatience. « Savez-vous le malheur dont vous serez la cause si vous vous obstinez ? Mon père me bannira de sa présence, ma mère m'abhorrera. »« Oh, ciel !» dit Camilla en l'interrompant. « Quelles sont vos vues ? À quoi pensez-vous ? » « Je pense à ce que je dis. » Et pour me faire mieux comprendre, je vais vous faire une demi-confidence, mais à condition que vous perdiez 20 fois la vie plutôt que de la révéler. Il s'agit, dis-je, m'entendez-vous, il s'agit d'une jeune et charmante créature. Une jeune fille, et qu'a cela de commun avec l'avidité que vous témoignez d'avoir de l'argent ? Quelle question naïve ! Que tu es enfant, ma pauvre Camilla ! J'espère que vous n'avez pas formé quelque lien à l'insu de mon père. » Lionel ne répondit que par un éclat de rire et Camilla reprit gravement. « Si vous avez contacté quelque engagement dont mon père ne doive pas être instruit et que ma mère puisse blâmer, pourquoi me le confieriez-vous ? » Pauvre enfant, vous n'entendez rien à tout cela. Un père est toujours avare et une mère bavarde. « Ah, Lionel, un père, une mère telle que les nôtres !» Je sais parfaitement qu'ils sont bons, et c'est ce qui me désole. Un bon père est une véritable calamité pour un pauvre garçon tel que moi. À la moindre petite faute qu'on fait, cela donne des remords. Un mauvais père ferait la joie de ma vie. J'aurais du plaisir à le faire enrager. Mais cette jolie fille, Lionel, en parlez-vous sérieusement ? Serait-il vrai que vous eussiez quelque engagement secret ? Est-elle d'ailleurs si pauvre, si dénuée, que ce soit pour elle que vous demandiez si fréquemment de l'argent et en si grande quantité ? Lionel rit encore en se frottant les mains, après quoi, prenant une contenance plus composée, « Ne me demandez rien à cet égard, dit-il. Il ne convient pas que vous soyez si curieuse. Surtout, n'en dites mot à personne, prenez-y garde. À l'égard de l'argent, il me le faut et promptement, autrement je suis à tous les diables. » « Ah, Lionel, dit Camilla, vous me faites frémir. Se pourrait-il que vous fussiez assez méchant, assez dépravé ? Non, il ne peut y avoir que de l'imprudence dans vos liaisons. S'il en était autrement, vous n'auriez ni la dureté ni l'injustice de me faire une pareille confidence. » Lionel pâlit de honte et se promena dans l'appartement en murmurant « C'est vrai, je n'aurais pas dû le faire. » Et bientôt après, d'un air plus affecté, il s'écrie « Si la chose se présente à vous sous des couleurs si odieuses, qu'en penserait mon père ? Et comment permettrais-je que ma mère pût en avoir le moindre soupçon ? Oh, jamais, jamais, dit Camilla, que l'un et l'autre puissent toujours l'ignorer, si en effet vous avez été assez dénaturé pour former de semblables liens, qu'ils ne le sachent jamais. Mais, ma chère, si cela devient public ? Public ? Oui, et uniquement faute de quelques misérables guinées. Mais comment cela pourrait-il dépendre de quelques guinées ? Donnez-les-moi et ne vous embarrassez pas du reste. Mon cher Lionel, dit Camilla affectueusement, je ne puis rien faire pour vous. Mon oncle a épuisé toutes ses économies. Il me l'a dit lui-même. Comment oserais-je donc m'adresser à lui pour une affaire aussi obscure, aussi mystérieuse, et plus que mystérieuse, je le crains bien. Je sais, ma chère enfant, qu'il ne s'occupe en ce moment qu'à accumuler pour le mariage de cette pauvre Génia. Mais convenez avec moi qu'il est bien dupe de se donner tant de peine, car à quoi ressemblera cette chétive créature avec ses joyaux et ses dentelles? Pouvez-vous parler ainsi de Génia? Je ne connais pas d'être plus aimable, plus intéressant qu'elle. C'est pure amitié tout ce que j'en dis. J'aime cette petite pédante autant que vous. La seule différence, c'est que je ne m'exprime pas comme une vieille maman, et réellement, quand vous le faites vous-même, vous ne sauriez croire combien cela jure avec votre joli visage. Au reste, écrivez simplement la lettre comme de vous-même, et dites-lui que par le prochain courrier, vous lui ferez part des motifs, que la poste va partir et que vous n'avez pas le temps de lui en dire davantage. Cajolez-le un peu, dites-lui que vous vous ennuyez à Tunbridge, qu'il vous tarde infiniment de revenir à Clèves pour jouir de sa brillante conversation. Ajoutez quelques autres phrases de ce genre et vous pourrez disposer de la moitié de sa fortune. Vous ne savez pas, ma chère Camilla, de quel mauvais pas vous me tirerez. Songez aussi à mon père, au coup que vous lui épargnerez, à ma mère, que je ne puis jamais revoir si vous ne venez à mon secours. Camilla soupira et laissa mettre la plume dans sa main. Mais la réflexion allait bientôt suivre quand Lionel la prit dans ses bras avec un transport de joie, disant qu'elle était sa protectrice, qu'elle allait le sauver du déshonneur et du désespoir, qu'il courait au bal tandis qu'elle écrirait, uniquement pour voir les personnes et empêcher le retour de la voiture, afin qu'elle pût écrire la lettre sans être dérangée, qu'il viendrait immédiatement la chercher avant qu'on fût de retour, partirait aussitôt pour Clèves et galoperait toute la nuit pour avoir l'argent le lendemain, car un seul jour de retard le lui rendrait absolument inutile. Il dit tout cela avec tant de volubilité qu'il était impossible de trouver le moment de placer une question ni une réponse. Et il sortit de l'appartement et de la maison avec la même vitesse. L'horreur d'une pareille conduite où elle ne voyait aucun amendement, le chagrin de ne pas se trouver au bal où Edgar l'attendait, l'embarras de ne savoir comment se dégager de la demi-promesse d'écrire que son frère avait regardée comme une promesse positive, la tourmentèrent presque également. Mais ces différentes sensations se réduisirent bientôt à un vif repentir de son apparente complaisance pour son frère. Demander les 200 livres à son oncle en son propre nom, c'est à quoi elle n'osa seulement pas s'arrêter. Mais quel motif donner à la demande pour Lionel ? Et comment solliciter une somme considérable sans entrer, comme il le désirait, dans aucune explication ? Elle était incapable de déguisement, elle détestait tout ce qui en avait l'apparence. Il lui parut donc qu'une simple supplication était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Mais dans une affaire si obscure, les expressions étaient si difficiles à trouver qu'elle commença 20 lettres sans pouvoir écrire plus de 2 lignes. Elle était donc bien loin d'avoir rempli sa tâche lorsqu'elle fit réflexion que si son frère ne l'avait pas positivement avoué qu'il eût contracté quelque engagement honteux, il ne l'avait pas non plus expressément nié. « Que vais-je donc faire ?» se dit-elle à elle-même, en tâchant de lui procurer cet argent. « Peut-être servirai-je le vice et l'immoralité, peut-être seconderai-je l'erreur, sinon le crime de mon frère. » À la suite de ces réflexions, elle repoussa le papier et quitta la table, bien déterminée à ne pas écrire un mot. Cependant, l'idée de n'avoir pas fait tous ses efforts pour épargner des peines à un père et à une mère si justement révérés la remplissait de terreur. Et quelle peine plus sensible pour eux, plus cruelle à éprouver, que la conviction de quelque désordre réel dans un de ses enfants. Cette crainte fut si forte qu'elle se rapprocha de la table pour écrire. Mais l'instant d'après, la solidité de son jugement lui fit apercevoir le vice d'un semblable sophisme. Elle vit que c'était leur épargner une peine actuelle pour la leur faire sentir plus douloureusement un jour, et que s'intéresser aux passions de son frère plutôt que sa moralité, c'était oublier toutes les leçons de vertu qu'elle avait reçues dès sa plus tendre enfance. Il était cependant terrible de désespérer Lionel. Elle vit bien qu'il serait sourd à ses remontrances, qu'il tournerait ses raisonnements en ridicule, qu'il se moquerait de ses moyens de persuasion. Elle craignait qu'il ne s'offensât d'être trompé dans ses espérances. L'impatience qu'il avait montrée d'obtenir cet argent redoublait en elle le regret de sa complaisance momentanée et la rendait plus sensible à la douleur qu'éprouverait son frère quand il s'en verrait frustré. Après avoir cherché mille moyens de lui adoucir son refus, elle se trouva si découragée qu'elle ne voulut pas s'exposer à le voir. Elle lui écrivit donc quelques mots et se retira dans son appartement. Dans ce billet, elle le priait de l'excuser si elle ne s'était pas d'abord aperçue que son devoir ne lui permettait pas de demander les 200 livres pour elle-même, qui n'avait besoin de rien, et qu'il ne lui était pas moins impossible de les demander pour lui sans aucune explication. Elle en était là, après avoir consumé un temps considérable en regrets et en réflexions, lorsqu'on sonna vivement à la porte, sans qu'elle eût entendu le bruit d'aucune voiture. Elle courut tout de suite à sa chambre, laissant sa lettre à moitié écrite sur la table, avec les différents essais de celle qu'elle avait voulu adresser à Sir Hugh, pour montrer qu'elle s'en était occupée et qu'elle y avait renoncé.